Marcel Florence, porte-parole de la MONUSCO.
Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Pour m'accompagner aujourd'hui, le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Claude Raoul Diungu depuis Goma, mais aussi le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Aziz Choy. Nous serons également connectés avec nos camarades de Bunia et de Bukavu. Quelques nouvelles pour commencer concernant le leadership des Nations Unies ici, en République démocratique du Congo. Le secrétaire général a nommé en fin de semaine dernière M. David McLachlan Carr en tant que son représentant spécial adjoint à la MONUSCO. Une fonction que, comme ses prédécesseurs, il cumulera avec celle de coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo. David McLachlan Carr était représentant spécial adjoint par intérim à la MONUSCO depuis juin dernier. Il a donc été confirmé à son poste. David McLachlan Carr a commencé sa carrière dans la diplomatie de son pays, l'Australie, avant de rejoindre l'ONU en 1993. Il a participé à de nombreuses missions d'urgence sur le terrain, notamment en Somalie, dans le Caucase, au Kosovo, au Darfour, au Timor-Leste et en Irak. De 2004 à 2016, il a été coordonnateur résident des Nations Unies et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Venezuela, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Sierra Leone et en Jordanie. Avant de rejoindre la MONUSCO, il occupait le poste de représentant spécial adjoint et coordonnateur résident adjoint en Guinée-Bissau. Pour rappel, Mme Leïla Zerougui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Elle est soutenue par deux représentants adjoints, l'un en charge de la protection et des opérations, qui est actuellement François Grignon, nommé par intérim, et le second étant donc David McLachlan Carr, qui joue un rôle essentiel dans la coordination des activités des Nations Unies dans le pays d'une part et de l'action humanitaire d'autre part. Et pour être tout à fait complète, je reviens sur l'annonce faite lors de la dernière conférence de presse par le porte-parole militaire, pour vous informer de l'arrivée dans la mission depuis quelques jours d'un nouveau commandant adjoint de la force. Il s'agit du général de division Thierry Lyon, qui est français et qui succède au général de division Bernard Cummins. Le général Lyon occupait auparavant le poste de représentant militaire en chef au sein de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York. La représentante spéciale du secrétaire général se trouve actuellement à Djibouti, où elle participe à la 10e retraite des envoyés spéciaux et médiateurs de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le thème retenu pour les échanges de cette année est celui de la gouvernance et de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique. Leïla Zerougui prend part à cette retraite aux côtés du secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et d'actuels et anciens représentants du secrétaire général en Afrique. Nous vous en reparlerons souvent dans les semaines et dans les mois à venir, car nous espérons que tous, que vous soyez journalistes ou auditeurs de Radio Okapi, vous allez participer au grand débat mondial sur l'avenir de la planète lancé par le secrétaire général à l'occasion de la Journée des Nations Unies. Dans un message présentant l'initiative ONU 75, Antonio Guterres demande à toutes les citoyennes et à tous les citoyens du monde de prendre la parole. Nous avons besoin de vos voix, de vos stratégies, de vos idées, afin de mieux servir les femmes et les hommes du monde entier auxquels nous sommes dévoués, a-t-il déclaré. Les idées collectées lors des dialogues seront présentées aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l'organisation, lors d'une grande manifestation qui se tiendra en septembre 2020 lors de la 75e session de l'Assemblée générale. Il s'agit en fait de formuler un projet mondial à l'horizon 2045. Cette année-là, ce sera celle du centenaire de l'organisation, donc à travers une série de dialogues qui commenceront en janvier 2020. Alors nous, les Nations Unies en République démocratique du Congo, nous allons tout faire pour faciliter ce dialogue, car il est important que toutes les voix puissent s'exprimer, que l'on puisse entendre les espoirs et les craintes des Congolaises et des Congolais, et apprendre de leurs idées et de leurs expériences. Alors restez à l'écoute, et en attendant, je vous invite à consulter le site de la campagne à l'adresse www.un.org/UN75. Nous retrouvons maintenant le porte-parole militaire de la MONUSCO qui, depuis Goma, va revenir sur les faits marquants de l'actualité sécuritaire de ces derniers jours. Colonel, c'est à vous.
Bonjour, Madame, monsieur, bonjour. En ce qui concerne la situation militaire, je peux dire que la recrudescence des confrontations entre FRDC et divers groupes armés, en l'occurrence les Mai Mai, les attaques perpétrées contre les civils par des individus toujours pas identifiés, les vols, les pillages et les attaques envers les équipes en lutte contre la maladie à virus Ebola constituent la trame de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la zone d'opération de la force de la MONUSCO. Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire dans les différentes provinces se présentent ainsi qu'elles suivent. Dans la province de l'Ituri, les équipes de riposte contre la maladie à virus Ebola ont fait l'objet de plusieurs attaques perpétrées par les groupes Mai Mai, notamment dans le territoire de Mambasa. Du 7 octobre 2019 à ce jour, 4 attaques ont été signalées respectivement à Biakato, c'est à 60 km au sud de Mambasa, à Luemba, c'est à 12 km au nord-ouest de Biakato, à Ndalia, c'est à 55 km au nord de Beni, sur l'as Beni Komanda, et à Mambasa, qui se trouve à 35 km à l'ouest de Beni. Dans la même période, de nombreuses échauffourées ont eu lieu entre les Mai Mai et les FRDC. Dans le territoire de Beni, les ADF concentrent l'essentiel de leurs activités sur l'axe Mbao-Kamango, Simoliki et l'axe Beni-Kassengi. Leur objectif semble être de se ravitailler pour tenir plus longtemps entre Mayangose et Mandina face à l'éventualité de l'attaque annoncée par les FRDC. Ces dernières ont d'ailleurs déjoué une embuscade tendue par les ADF à un camion civil dans la localité de Nyaleke, c'est à 5 km à l'est de Beni. Dans le reste de la province du Kivu, le 7 octobre 2019, la coalition des Mai Mai Nyatura et la milice APCLS a lancé une attaque qui a été repoussée par les FRDC dans la région de Mouchébéré. D'autres affrontements ont eu lieu entre le 18 et le 28 octobre à Kizembe, c'est à 15 km à l'est de Kichanga, à Louibo, c'est à 110 km à l'ouest de Sake, à Kilembo, c'est à 8 km au sud de Kayabayonga, à Bianze, qui se trouve à 16 km au nord-est de Kirumba, à Munoli, c'est à 12 km au sud-ouest de Butembo, et enfin à Kisalala, à 10 km au nord de Butembo. Il faut mentionner que ces affrontements successifs ont entraîné des déplacements de populations qui pourraient devenir une urgence humanitaire. Dans la province du Sud Kivu, la crise humanitaire qui y sévit devient de plus en plus inquiétante. Le 7 octobre, les Mai Mai ont affronté les FRDC à Kacheremba, c'est à 112 km au sud-ouest de Baraka, dans le territoire de Fizi. D'autres affrontements entre Mai Mai et Ngomino obligent les populations à se déplacer vers les bases de l'ONU qui se trouvent à Mikenge et à Minembwe. Par ailleurs, la présence remarquée des Mai Mai Malaika à Salamabila pourrait être source d'affrontements entre eux et puis les FRDC. Au titre de la coopération civilo-militaire, les assistances médicales gratuites au profit des populations civiles, les formations de renforcement des capacités des jeunes dans divers domaines, je peux mentionner les cours de langue, les cours d'informatique par exemple, et la distribution de l'eau potable aux populations se poursuivent. Des travaux de réfection de tronçons de route ont été entamés ou effectués pour favoriser le déplacement des populations dans le cadre de leurs activités socio-économiques dans certaines régions. Enfin, il convient de mentionner la reddition de 48 éléments appartenant à divers groupes armés au courant de ce mois d'octobre 2019. Je vous remercie.
Merci, colonel. Je me tourne maintenant vers Aziz Choy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, afin qu'il nous présente la situation relative aux droits de l'homme actuellement en République démocratique du Congo.
Merci Florence. Mesdames et messieurs les journalistes Kinshasa, Goma et Bounia, chers auditeurs de Radio Okapi qui nous suivez, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les tendances en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo telles que documentées par mon bureau pour le mois de septembre. Au mois de septembre, le bureau conjoint a documenté 502 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au mois d'août, Cette augmentation s'explique notamment par une hausse significative du nombre d'atteintes attribuables aux groupes armés, en particulier les Mai Mai Nyatura et divers autres groupes Mai Mai actifs dans le Nord Kivu, tandis que le nombre de violations commises par les agents de l'État reste stable. Le pourcentage des violations perpétrées sur l'ensemble des territoires de la RDC est de 49% pour les agents de l'État, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 29 personnes, y compris 6 femmes et 3 enfants, et de 51% pour les groupes armés dont l'exécution sommaire d'au moins 48 personnes, dont 6 femmes et 1 enfant. Près de 95% des violations atteintes documentées ont été commises dans les provinces affectées par les conflits, avec comme principaux auteurs les groupes armés. Cependant, de toutes les parties au conflit, les militaires des FARDC ont commis le plus grand nombre de violations, pris en tant que groupe, et la province du Nord Kivu demeure la plus affectée, avec plus de la moitié des violations enregistrées dans ces provinces, suivies du Kasaï, du Sud Kivu et du Tanganyika. Le nombre de victimes de violences sexuelles liées au conflit est de 34% en septembre par rapport à 27% le mois précédent. Les combattants des groupes armés restent les principaux auteurs des violences sexuelles, 30 victimes adultes, en particulier les miliciens Twa et des combattants du NDCR de Guidon. Près de 5% des violations documentées ont été commises dans les provinces non affectées par le conflit, toutes attribuables à des agents de l'État, soit près de la moitié à des militaires FARDC. La plupart des violations commises dans ces provinces non affectées par le conflit ont été enregistrées dans le Haut-Katanga, Kinshasa, le Lualaba et également la Tchopo. Le bureau conjoint a d'ailleurs documenté 61 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire, un chiffre proche des 59 violations enregistrées au mois d'août. Les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu, le Kasaï et le Sud Kivu. Dans un retournement de tendance, les principaux auteurs de ces violations sont des combattants de groupes armés qui ont ciblé des activistes de la société civile en raison de leur statut ou pour avoir dénoncé ou tenté d'empêcher des atteintes commises par des groupes armés. Les violations les plus rapportées en septembre sont des violations des droits à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté d'expression et d'opinion. En septembre, le bureau conjoint a continué d'appuyer les activités des juridictions militaires et civiles dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au moins 25 militaires FARDC, 3 agents de la PNC et 18 combattants des groupes armés ont été condamnés pour des violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. En septembre 2019, dans le cadre de notre programme de protection, mon bureau a traité 10 cas de menaces à l'encontre de 66 personnes, dont 6 femmes, parmi lesquelles 57 défenseurs des droits de l'homme, 2 journalistes et une victime sur l'ensemble du territoire. Mon bureau a également organisé 11 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme en faveur de 392 personnes, dont 42% de femmes. Je vous remercie.
Merci, Aziz.